Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance pour que tu te poses les bonnes questions, celles qui te feront véritablement avancer et que tu passes à l'action pour avancer sur le chemin. Cette semaine, on se retrouve pour mon premier épisode solo de la saison 3. Pour reposer un peu le cadre, mon envie avec ces épisodes monologues, c'est de pouvoir plonger plus profondément dans un sujet que ce que j'ai l'occasion de faire habituellement avec mes invités. Comme tu le sais, mon envie, c'est que ce podcast ce soit un réel outil de travail pour toi, dans ton activité, dans ton quotidien. Et pour ce, je ne pouvais pas m'empêcher que d'avoir sur ce podcast un format de ce type où je peux te guider au travers d'un sujet qui me semble réellement important. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui, je pense, a été traité en long, en large et en travers sur Internet ces derniers mois. C'est le sujet de la spécialisation. Alors bien sûr, quand je dis traité en long, en large, en travers, c'est dans notre microcosme du freelancing, mais si tu consommes du contenu dont ce podcast sur le sujet de l'indépendance, t'as sûrement vu passer au moins un article sur le fait que il faut absolument se spécialiser quand on est freelance. Et j'ai vu tellement de contenu émerger sur le sujet que j'avais aussi envie d'apporter mon regard sur la question qui, vous allez le voir, diverge un peu des conclusions que vous avez l'habitude de voir et d'entendre sur ce sujet-là de la spécialisation. Parce que non, dans cet épisode, je ne vais pas te dire que tu dois être un ultra spécialiste d'une niche, d'un secteur ou d'une thématique hyper précise. C'est pas ce que je vais te dire. Et la raison pour laquelle je vais pas dire ça, c'est parce que tout d'abord je vais creuser plus loin et expliquer tout le raisonnement derrière et pourquoi je pense que c'est pas pour tout le monde d'être hyper spécialiste, mais ce que j'ai observé quand j'ai vu passer ces contenus sur les réseaux dans les temps derniers, c'est que il y a beaucoup de freelance qui, pour qui ces recommandations, ces conseils ont été vécus presque comme une injonction. Tous ces contenus qui nous somment de nous ultra spécialiser, il y a certains freelances effectivement pour qui c'était pas aligné en fait, qui l'ont vécu comme une injonction à laquelle ils souhaitent pas se plier et qui n'ont envie ni d'être ces freelances là, ils ont pas envie d'être le designer des marques de casseroles, le community manager des parapharmacies ou même le conseiller en communication des PME de Roubaix. Alors je caricature un peu, mais on va se plonger plus loin dans le sujet là tout de suite. Donc je vous invite à vous munir de la boisson chaude de votre choix, de votre carnet, de votre stylo favori, et de plonger avec moi dans cette analyse, parce que, encore une fois, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'entre vous, et surtout les freelances qui ont vécu ces contenus sur la spécialisation comme une injonction, donc accrochez-vous, c'est parti. Pour engager cet épisode, j'avais envie qu'on revienne pendant un moment sur les raisons qui sont à la base de pourquoi est-ce qu'un client achèterait les services d'un freelance. C'est le tout départ de la réflexion sur la spécialisation, il me semble, parce que quand on se demande pourquoi se spécialiser, c'est évidemment pour être mieux reconnu par nos clients et donc, in fine, conclure plus de contrats et signer plus de devis. Et du coup, j'avais envie qu'on remonte à ce tout premier niveau d'analyse pour nous demander qu'est-ce qui pousse une personne, un client, un prospect, à avoir recours au service d'un freelance ou d'un indépendant. Qu'est-ce que c'est la raison à la base qui pousserait quelqu'un à acheter tes services à toi, par exemple? Pourquoi est-ce que cette personne investirait son argent dans les services qu'on lui propose? C'est quoi la base de tout ça? Et quand on remonte à cette toute première question, c'est là qu'on peut comprendre la source même de cet apparent besoin de devenir ultra spécialisé. C'est de là que vient sûrement quelque part ces recommandations de s'hyper spécialiser. Et du coup, je voulais qu'on remonte là-haut sur ces besoins fondamentaux et ces raisons pour lesquelles, à la base, les clients achètent nos services en tant que freelance. Et en essayant de creuser un peu, j'ai identifié 4 besoins fondamentaux. J'ai essayé de remonter toujours plus haut dans les catégories mères, entre guillemets, parce que bien sûr, il y a une infinité de choses qui pourraient justifier que les clients achètent les besoins d'un freelance, et j'imagine que tu en as déjà quelques-unes qui te passent par la tête. Mais j'ai essayé de retrouver les besoins fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui sont à la base de tout et dans lesquels on peut regrouper toutes les autres catégories. Donc oui, il y en a des centaines, c'est clair, mais là, j'ai voulu encapsuler tous les autres besoins dans ces 4-là que je vais te partager. Les voici donc. Le premier besoin que j'ai identifié, et c'est sûrement le plus logique, c'est le manque de compétences. La personne en question, le client, ne sait tout simplement pas faire ce qu'il cherche à faire, et du coup, il a besoin de quelqu'un qui a les compétences pour le faire et qui pourra l'accompagner dans cette direction. Il a besoin de quelqu'un qui a les compétences pour résoudre le problème auquel il fait face. Alors là, on peut penser à plein d'exemples. Imaginons que quelqu'un veut créer un site web et ne sache pas créer un site web. Ben, du coup, évidemment, il va avoir recours à un freelance. Peut-être que cette personne, elle veut mieux communiquer sur ses projets et lancer un nouveau produit, lancer une application, lancer un SaaS, un software as a service, et elle ne sait pas comment bien communiquer sur ce lancement, elle va avoir recours à une agence de communication ou à un freelance qui fait de la stratégie de contenu, par exemple, ou de la rédaction web. Et du coup, l'idée ici, pour ce premier besoin, c'est tout simplement de chercher quelqu'un avec une compétence précise suite à une prise de conscience d'un manque. Je manque d'une compétence alors que j'ai besoin de cette compétence précise pour avancer dans mon projet. Donc je vais aller chercher cette compétence à l'extérieur de moi-même ou de mon entreprise si j'ai une équipe. Et c'est comme ça que je vais aller travailler avec un freelance. Genre, je dois créer un logo, mais je suis pas designer et je sais pas faire du design. Du coup, je vais chercher quelqu'un pour m'aider, etc., etc., comme on vient de le voir. Et du coup, je vais missionner quelqu'un pour m'accompagner sur cette compétence très précise que je n'ai pas. La motivation principale, du coup, encore une fois ici, c'est j'ai un besoin auquel je ne peux pas répondre avec mes propres compétences, donc je vais aller chercher des compétences à l'extérieur. Pour l'instant, je ne vous apprends rien. Le second besoin que je vois relève plutôt du manque de ressources. C'est-à-dire que la personne en face a potentiellement les compétences de faire ce qu'elle cherche à faire, mais elle n'a pas les ressources, comme elle n'a pas le temps, par exemple. Elle n'a pas le temps nécessaire ou l'énergie nécessaire pour le faire elle-même. Elle sait potentiellement le faire, mais elle n'a pas envie de, elle n'a pas le temps et l'énergie de s'y consacrer, et du coup, elle cherche à le faire faire par quelqu'un d'autre. On peut imaginer, dans ce cas, par exemple, une agence qui vient de signer beaucoup trop de clients et qui, du coup, a besoin de renfort pour pouvoir délivrer la valeur et délivrer ce qu'elle a vendu. Et donc, elle va aller chercher des indépendants, des freelances, pour pouvoir couvrir les besoins parce qu'elle a plus assez de ressources, elle a plus les ressources en termes de temps, d'équipe et d'énergie pour couvrir ce qu'elle a vendu. Et du coup, quand on constate ici, dans ce cas, dans le cas du deuxième besoin, plutôt le manque d'une ressource, comme le temps disponible, ce qu'on va chercher, c'est la compétence nécessaire pour combler ce gap. On n'est plus seulement à la recherche de la bonne compétence pour le besoin, mais on est à la recherche de la bonne compétence disponible pour le besoin. C'est-à-dire que la disponibilité va devenir plus importante que la compétence elle-même, parfois. Parce que si on doit, dans ces cas-là, si on doit attendre 2 semaines, 3 semaines, potentiellement 1 mois pour l'expert parfait avec l'exacte bonne compétence, ben au final, ça remplit pas notre besoin prioritaire qui est le manque de ressources et donc le temps, et parfois c'est plus urgent. Du coup, ça c'est intéressant, c'est déjà une nuance qu'on trouve où c'est pas la compétence qui prime, mais c'est la disponibilité. Premier sujet intéressant. Et du coup, effectivement, la bonne compétence rentre en compte. Je dis pas que on cherche quelqu'un qui n'a pas les compétences mais qui est disponible tout de suite, mais par contre, le temps va, la disponibilité va potentiellement primer sur la compétence, ou à niveau égal, c'est la disponibilité qui va se jouer. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la personne en question, au-delà même de rechercher la bonne compétence, elle recherche une méthode testée et approuvée, et donc quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine précis, qui va pouvoir appliquer cette méthode testée et approuvée, qui permettra ainsi du coup à notre client de gagner beaucoup de temps, plutôt que de devoir expérimenter par lui-même, tester des choses, et trouver la bonne méthode avec le temps. C'est-à-dire que ici la différence avec le premier besoin c'est j'ai identifié une compétence nécessaire pour développer mon projet, je vais aller chercher la compétence et la guider dans mon projet, alors que là au contraire, la personne a besoin de plutôt cette part de conseil où la personne, l'indépendant, le freelance va arriver, dresser le projet et l'organiser avec la méthodologie qu'il connaît et l'approche qu'il connaît, l'enseigner au client et donc ensuite l'emmener dans cette direction avec lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le client, il sait potentiellement pas exactement où il va, mais il cherche surtout à gagner du temps. Il cherche à aller plus loin que ce qu'il pourrait faire en opérant par lui-même sur un format de test and learn ou en faisant monter en équipe, en compétence son équipe sur le sujet. Il a envie directement de trouver la bonne réponse. Et du coup, il cherche une personne qui est capable de leur partager les apprentissages clés sur cette thématique, sur ce sujet, et leur apporter quelque chose de très ciblé et de très pertinent qui sera directement la bonne réponse. Ils n'ont pas envie de tester différentes stratégies, ils n'ont pas envie de tester différentes choses, ils veulent la méthode prouvée et approuvée que quelqu'un a fait plusieurs fois. Et c'est notamment dans le cas de ce besoin-là que les personnes recherchent des experts d'un sujet qui se démarquent et qui ont un track record, entre guillemets, de plusieurs fois où ils ont prouvé leurs compétences sur quelque chose et ils ont eu des résultats prouvés dans leur précédente mission. Ça, c'est le troisième besoin, la troisième raison pour laquelle un client pourrait acheter les services d'un freelance. Et le quatrième, et le dernier besoin, qui est un peu différent encore une fois des autres, bien sûr, c'est des nuances, mais c'est intéressant de voir les nuances. Ce quatrième besoin, c'est que stratégiquement, cela fait plus sens pour la personne, pour le client, de sous-traiter cette partie de son travail alors qu'elle le fait déjà elle-même ou sait le faire, mais qu'elle a plus envie de le faire. Ou pour des raisons stratégiques. Pas pour manque de ressources, de temps, mais pour des raisons stratégiques, c'est mieux pour elle de déléguer. Et là, c'est une réflexion très terre-à-terre que peuvent avoir notamment des entrepreneurs indépendants de la valeur ajoutée de chaque personne. où, par exemple, un entrepreneur indépendant va se dire « Je n'apporte plus le meilleur de mes compétences et le meilleur de ma valeur ajoutée en travaillant sur cette tâche. Je vais donc choisir quelqu'un qui va mieux travailler dessus et qui va le faire à ma place. » Et parfois, un client cherche tout simplement à être accompagné sur une tâche qu'il préfère effectivement du coup laisser à d'autres pour se concentrer sur ce qui l'intéresse le plus ou qui exploite au mieux ses compétences. Par exemple, c'est le cas aussi de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires pour les indépendants, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément le commercial ou qui n'exploite pas ses meilleures compétences en faisant du travail commercial, qui va chercher d'autres personnes pour lui faire rentrer ses clients et qui va du coup se concentrer sur le fait de délivrer leur mission pour les clients. Du coup, ça, c'est les quatre besoins que j'ai couverts. Ils peuvent s'adresser autant à des personnes uniques, c'est-à-dire un client comme un fondateur d'une startup qui est la personne unique, ou à des managers d'équipe ou des fondateurs d'entreprise comme le cas que je le disais, auquel cas on dirait que pour le besoin premier par exemple, soit c'est eux-mêmes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour le projet, soit c'est leur équipe qui n'ont pas les compétences nécessaires pour le projet, qui apporte aussi une variable de la compétence recherchée, parce que si la compétence recherchée c'est de faire le travail tout seul pour une personne, ou de faire le travail encadré d'une équipe et d'encadrer une équipe et de l'emmener dans la direction, c'est pas les mêmes compétences. Du coup, c'est intéressant cette nuance-là de se demander est-ce que le client il est seul ou est-ce qu'il est à la tête d'une équipe? Est-ce que le projet, le besoin identifié, c'est d'accompagner son équipe, etc., etc. Dans le deuxième cas, les ressources nécessaires, c'est l'équipe qui a pas le temps ou c'est lui qui a pas le temps. Enfin bref, vous pouvez appliquer cette réflexion en cas de besoin. Ce qu'on peut observer avec ces quatre différentes familles de besoins, et je vais revenir dessus, la première famille, c'est la compétence que le client n'a pas qui répond à un besoin. Le deuxième, c'est les ressources manquantes en termes de temps et d'énergie, par exemple. Le troisième, c'est que la personne en question, elle recherche un expert qui a une méthode testée et approuvée. Et le quatrième, c'est que stratégiquement, ça fait plus sens de déléguer que de faire les choses soi-même. Et dans ces quatre familles de besoins, et c'est ce pourquoi c'est ce derrière chacun de ces besoins, c'est la même chose, et c'est sans surprise bien sûr, c'est que ce qui est recherché toujours, c'est un point de rencontre entre un besoin, une problématique et des compétences clés. Donc il y a toujours ce couple problème, besoin et compétences. Et ça, c'est la base de la base qui pourrait effectivement nous pousser à nous dire et justifier le fait qu'il soit important de se spécialiser dans justement ce couple problème-compétence. Ça pousserait les indépendants, si on prend que ce niveau-là d'analyse, de se dire « Ok, si à chaque fois ce que les clients cherchent pour travailler avec un freelance, c'est un couple problématique-compétence, j'ai tout intérêt à me spécialiser sur un couple problématique-compétence. » Mais les nuances qu'on découvre dans ces quatre typologies de besoins peuvent emmener à penser que la réponse n'est pas forcément si catégorique que ça, notamment en fonction de la finalité de la recherche. Parce que chercher simplement une spécialisation sur un couple problématique compétence, ça ne prend pas forcément en compte la finalité de la recherche qui est différente en fonction de ses besoins. Il y avait une recherche où il y avait un de ses besoins où la finalité et l'enjeu principal c'était de gagner du temps, l'autre où c'était de déléguer facilement. Le troisième, c'était plutôt de sauver les meubles quand on n'a pas les ressources nécessaires ou de faire tout simplement ce qu'on ne sait pas du tout faire. Et quand on voit déjà qu'il y a ces nuances qui se tissent, la spécialisation pure et dure, comme est souvent conseillé de se spécialiser sur une thématique ou dans un secteur, sur une niche, mais au final, ça ne prend pas forcément en compte l'entièreté des besoins de nos clients. Du coup, partant de là, je me dis que ça vaut le coup de creuser encore pour aller comprendre un peu plus profondément qu'est-ce qui se joue là-dedans et finalement qu'est-ce qu'on cherche réellement à faire quand on dit qu'il faut devenir ultra spécialiste ou qu'il faut avoir une niche très précise. Au-delà de ces différents besoins fondamentaux que je viens de vous expliciter là, de pourquoi les clients travaillent avec les freelances, je pense qu'il est également nécessaire de se poser la question de cette question que je posais juste avant, pourquoi est-ce qu'on dit et pourquoi est-ce qu'on cherche à être ultra spécialiste? C'est quoi les avantages qu'on tire de ça? Quels sont les avantages à devenir l'ultra-expert d'une niche bien précise comme le community manager des parapharmacies en croissance. Par rapport à ce qu'on a vu, la base de ce que recherche un client peut se résumer ainsi. Un client cherche un interlocuteur qui répond au bon moment à un couple problème-compétence. Et une fois que le besoin a été constaté par le client, ce besoin-là de « tiens, j'ai besoin de quelqu'un qui répond au bon moment, maintenant ou dans un mois, quand ce sera le moment du lancement, etc. etc. » à un couple problème-compétence que je rencontre. Une fois que ce besoin-là il a été constaté, naturellement, notre client, auquel on pense, il va se mettre en recherche du bon interlocuteur. Il va se dire « ok, j'ai besoin de ça, maintenant il faut que j'aille le chercher ». Et c'est encore assez neuf d'ailleurs pour les clients de chercher des indépendants, ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et un de ses premiers réflexes serait donc naturellement via les éléments de définition de son identité et de son problème. Donc quelqu'un, on pourrait aisément imaginer un client qui aille par exemple sur Google et qui se dise « ok, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche quelqu'un pour mes réseaux sociaux, donc je vais taper « freelance community manager » ou « freelance social media manager ». Et qui je suis ? Je suis une startup B2B dans le monde de l'immobilier. Donc elle va taper ses mots-clés dans l'aide en Google, qui sont quoi ? Qui sont la compétence qu'elle recherche et son identité en tant qu'entreprise, en tant que client. Soit du coup son besoin identifié dans le secteur dans lequel il se trouve. Tout simple. Et effectivement, quand il fait cette recherche, si jamais il y a un indépendant qui s'est positionné de la sorte, qui se dit « tiens, moi je vais être le social media manager ou le community manager pour les startups dans le monde de l'immobilier », mais on peut imaginer que cette personne-là soit trouvée par le client qui pourrait ensuite s'exclamer et dire quelque chose du style « ah ben voilà, c'est exactement ce que je cherche. Cette personne, c'est la bonne personne pour moi. » Tout simplement parce qu'elle s'est positionnée sur le sujet, la thématique et le secteur, la niche. Ce qui est la base de ce conseil qu'on entend tellement souvent, de se dire il faut être spécialisé et faut se spécialiser dans un sujet, quoi. Et heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, c'est pas le cas de tous les clients d'aller simplement taper dans Google avec ses mots-clés pour trouver leur freelance. Bien sûr que c'est pas le cas parce qu'il y a plein de différents canaux d'acquisition et j'imagine que c'est même rarement le cas. Certains passent par le réseau, ils vont demander autour d'eux est-ce que tu connais pas quelqu'un qui fait ça ? D'autres passent par des plateformes, d'autres passent par une recherche LinkedIn où ils vont aller voir les choses, d'autres étaient tombés sur du contenu créé par un freelance sur un sujet il y a quelques semaines, et du coup ils vont y revenir, ils vont le retrouver, etc. etc. Il y a plein de manières de trouver leurs indépendants. Et finalement, peu importe le canal, quand notre client cible nous découvre et interagit avec nous, donc c'est soit quand il nous découvre pour la première fois, soit quand il interagit avec nous au téléphone ou à un café, évidemment que la réaction qu'on souhaite qu'il ait, c'est la même que celle que je disais juste avant, c'est « ah tiens, ça c'est exactement la personne qu'il me faut, elle parle exactement à moi, voilà ce que je cherchais ». Et c'est dans cette petite phrase, je trouve, que se trouve une grande partie de la réponse à notre question initiale, pourquoi est-ce qu'on cherche à s'hyper spécialiser ? Parce que, en fait, la raison pour laquelle l'hyper spécialisation, comme on l'entend depuis le début de l'épisode, est intéressante, c'est tout simplement pour créer du lien et surtout de la préférence pour nos clients idéaux et pour les clients qu'on cible. En fait, il faut créer chez eux la conviction que ce que nous proposons en tant que freelance, nos services, notre positionnement, nos offres, qui nous sommes, a été fait sur mesure pour eux. Et évidemment, la manière la plus simple pour leur montrer que ça a été fait sur mesure pour eux, c'est de se spécialiser dans leur secteur. C'est de se spécialiser pour leur typologie d'entreprise, et dans leur secteur, et sur les compétences que vous représentez. Donc bien sûr, la manière la plus simple de faire en sorte que vos clients vous reconnaissent comme la bonne personne à qui s'adresser, c'est de devenir le community manager des parapharmacies, le designer des startups B2B dans l'immobilier, parce que ça crée cette connexion-là où la personne se dit en face « ah ben voilà, j'ai trouvé exactement la personne qui s'adresse à moi ». C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans notre proposition de valeur, dans notre positionnement, dans nos services, etc. etc. Et ça, c'est la base. Si qui nous sommes en tant que freelance ne répond pas aux besoins de nos clients, Alors évidemment, ils ne vont pas vouloir travailler avec nous. Et je reviens dessus, c'est pour ça, et seulement pour ça, que la spécialisation du style le community manager des startups de l'immobilier semble faire sens. C'est pour qu'un client de cet univers-là, qui interagit dans ce secteur, dans ce domaine, dans cette thématique, se dise « Ah, ça c'est pour moi, ça me parle, c'est fait sur mesure pour ma problématique du moment. » Mais du coup, venons-en à mon avis concret qui diverge un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui est que cette forme-là de spécialisation, quand on se dit « je suis le community manager des startups B2B de l'immobilier » par exemple, ça ne montre qu'une infime partie de l'image. Et surtout, je trouve que ça enferme beaucoup de freelances qui n'ont ni envie de s'enfermer dans une thématique ou un secteur, ni envie de se résumer à une tâche ou compétence hyper précise. Et si, en tant que freelance, tu n'as pas envie de faire ça, et que tu ressens du coup ce conseil de la spécialisation un peu comme une obligation, une injonction à laquelle tu n'as pas envie de te plier, la première chose que j'ai envie de te dire à toi, si tu le ressens, c'est que je vais te proposer une alternative, tu n'es pas obligé de faire ça, et pour moi, la spécialisation, elle va plus loin que ça. Et il y a une autre manière de spécialiser qui ne dépend pas de choisir un secteur et de s'y tenir. Parce que clairement, s'il y a des personnes qui ressentent ça comme une obligation, une injonction et qui le vivent mal, c'est que c'est une approche qui est enfermante et qui, pour moi, est limitante en fait. Si une approche comme ça ne parle pas et ne permet pas à chacun de trouver sa manière de faire, c'est qu'il en existe forcément d'autres qui peuvent fonctionner. Parce que je suis convaincu de ça, il n'y a pas une seule stratégie miracle qui fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas une approche miracle qui fonctionne pour tout le monde. Et si vous ne vous sentez pas aligné avec cette approche-là, ben je vais vous en proposer une alternative qui pour moi est tout aussi intéressante et puissante et valorisante pour créer ce lien de proximité avec nos clients qu'on recherche, cet aha moment où ils se rendent compte « Ah, ça c'est pour moi ». Et je pense vraiment que cette approche dont je vais vous parler, elle permet d'aller encore plus loin là-dedans et de créer encore plus de liens que cette simple spécialisation. Et du coup, je vais vous la partager là tout de suite. Du coup, juste pour reposer mes convictions sur ce sujet, sur ce modèle. Comme je le disais, ce que nos clients recherchent avant tout, quand ils choisissent leur freelance et quand ils choisissent la personne avec qui ils vont travailler, c'est cet aha moment de se dire « j'ai en face de moi la personne parfaite pour m'accompagner ». Et presque qu'ils se disent « où étais-tu toute ma vie ? Qu'est-ce qui fait que... » enfin, que vraiment ouais, la personne se dise que vous, vos services, votre activité, votre positionnement, tout a été sur mesure pour lui. Que c'est comme si vous aviez tout fait pour créer les choses pour que, à ce moment-là, quand vous le rencontriez, ce soit parfait pour lui. C'est ça ce que vous avez envie de créer comme ressenti chez vos clients quand vous les rencontrez. Et pour créer ce moment-là, la base incontournable de n'importe quelle approche et de tout freelance, ça devrait être une connaissance profonde des clients que vous avez envie de cibler, de vos clients idéaux et de ce client en particulier d'ailleurs, pour créer ce lien de confiance et imaginer et donner vie et créer des offres et des services qui lui vont comme en gants, qui sont faites sur mesure pour lui encore une fois. Et ce travail-là, beaucoup trop peu de freelance le font au niveau de profondeur nécessaire pour réellement faire écho avec ce qui se passe dans la tête et dans les tripes, de leurs clients idéaux. Mais ça, c'est un autre sujet, et on va pas creuser la profondeur nécessaire aujourd'hui. Mais du coup, quand on développe cette connaissance fine et profonde, qui traite à la fois des problèmes fonctionnels de clients, c'est-à-dire leurs besoins, comme on l'a vu au tout début, genre « je sais pas faire mon identité visuelle ou mon site », ou mener une campagne de communication ou créer du contenu, je cherche la compétence pour ça. Ça, c'est un besoin fonctionnel. Pour moi, la connaissance fine et profonde, elle dépasse ça et elle va jusque dans les problèmes émotionnels qui en découlent. Ça fait 3 mois, 6 mois que je galère sur mon site et j'en suis pas fier. Ce qui crée, ça c'est le problème fonctionnel, de galérer pendant 6 mois à faire le site. Ce qui crée chez la personne et chez le client de la frustration de ne pas avancer à 100% de son potentiel, de potentiellement louper des opportunités tous les jours, de décevoir sa famille qui a peut-être investi de l'argent dans son projet. Bref, il y a tout un tas de problématiques émotionnelles qui viennent faire surface, qui se cachent sous le problème fonctionnel. Et on a besoin d'avoir ce niveau de connaissance profonde, parce que si vous vous intéressez un peu à la manière dont fonctionne le cerveau, et surtout à la prise de décision de comment les humains fonctionnent et prennent leurs décisions, vous verrez que la grande majorité de nos décisions ne sont pas des décisions rationnelles, mais sont des décisions émotionnelles. Et donc, pour créer cet aha moment dont je parle depuis le début de l'épisode, il faut réussir à creuser dans la psychologie et dans les problématiques émotionnelles de nos clients, parce que quand on les comprend à ce niveau-là et à cette profondeur-là, et qu'on crée cette connexion-là, c'est là où finalement on va accélérer la décision de qu'ils se disent « cette personne, elle me comprend parfaitement, elle a été faite sur mesure pour moi », parce que vous avez compris leurs problèmes émotionnels qui vont au-delà des problématiques fonctionnelles. Et c'est quand on a cette connaissance fine et profonde-là qu'on n'est pas capable de construire ce que j'appelle le schéma de la transformation. Et le schéma de la transformation, c'est pour moi l'outil qui vous permet de vous positionner et de vous spécialiser sans forcément vous enfermer dans un secteur, une thématique ou une niche. Je vous explique ce schéma. Ce schéma, il part du constat que n'importe quel être humain vit aujourd'hui, donc toi aujourd'hui, tu en fais partie, tu vis une situation actuelle. Tu es dans une situation de ta vie où il y a plein de différentes caractéristiques, tu habites à tel endroit, tu fais tel métier, tu gagnes tant de chiffres d'affaires, tu travailles avec tel client, tu te couches à telle heure le soir, tu as telle pensée qui te traverse tous les jours, tu as telle angoisse et frustration et telle problématique pour te coucher le soir parce qu'il y a telle chose qui te passe par la tête. Bref, tu es dans une situation actuelle avec face à toi des problèmes à la fois au niveau fonctionnel, donc qui t'empêchent d'avancer vers tes objectifs, comme j'arrive pas à faire mon site web, j'arrive pas à trouver de nouveaux clients, j'arrive pas à trouver l'équilibre pro-perso, tous les problèmes que peuvent rencontrer les freelances. Et ensuite, plus loin sur le chemin, t'as une situation idéale. T'as l'endroit où tu rêverais d'être dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Ou, par exemple, où t'aurais dépassé, du coup, tous ces problèmes-là qui te barrent la route. Et ce schéma-là de situation actuelle, problème qui te barre la route, situation idéale dans le futur, n'importe quel être humain peut être placé sur ce schéma pour plein de différentes raisons et dans tous ses domaines de vie. C'est basé sur le principe que l'épanouissement humain dépend de notre croissance et de notre développement. On est toujours, à n'importe quel moment de notre vie, en train d'avancer vers quelque chose. Il y a toujours des choses qu'on est en train de construire. Et on est toujours en train d'avancer vers quelque chose. Et pourquoi j'appelle ça le schéma de la transformation? C'est que, entre notre situation actuelle et la situation idéale vers laquelle on veut aller, le chemin entre les deux, c'est un chemin de transformation où on se doit de dépasser les problématiques face auxquelles on est, de changer potentiellement des croyances, bref, de nous transformer entre la personne qui est dans la situation A et la personne qui est dans la situation B. Et si on peut placer n'importe quel être humain sur ce schéma-là de la transformation, vos clients idéaux, vous pouvez aussi les placer sur ce schéma. Et du coup, le travail à faire, c'est de réussir à comprendre en profondeur quelle est la situation actuelle de vos clients idéaux, quels sont tous les problèmes auxquels ils font face dans cette situation actuelle, autant fonctionnelle que émotionnelle, qui les empêche d'aller vers leur situation idéale dans 3 mois, 6 mois, 1 an, potentiellement plus long terme, potentiellement plus court terme. Et quand vous arrivez à comprendre ça, où ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche d'avancer vers leurs objectifs et leur situation idéale, et surtout, où est-ce qu'ils veulent aller, c'est ça finalement, et c'est ce schéma-là que vous venez de dessiner, qui sera votre spécialisation. Notre spécialisation en tant que freelance, ce n'est pas de choisir une thématique et un secteur et de nous y camper, Parce que même au sein d'une thématique et d'un secteur, il peut y avoir plein de différents enjeux, plein de différents besoins, plein de différentes problématiques. Notre spécialisation en tant que freelance, c'est d'accompagner une certaine catégorie de personnes, les clients idéaux qu'on veut cibler et qu'on choisit, qui vivent telle ou telle situation actuelle, et de les accompagner du coup vers telle ou telle situation idéale. Et ce, grâce à une proposition particulière qui nous est unique à nous en tant qu'être humain, en tant que l'être humain unique que nous sommes. Et c'est ça notre spécialité. Vous spécialiser, c'est choisir des clients idéaux et choisir la transformation que vous voulez les aider à avoir. Donc c'est ça la grande question, c'est pas quel est votre secteur, quelle est votre thématique et voilà votre spécialité, comme beaucoup trop de conseils sur la spécialisation le disent, mais c'est plutôt quelle est la transformation de vos clients idéaux que vous voulez accompagner. Et votre hyper spécialisation, c'est donc cette transformation particulière-là que vous offrez à vos clients, et vous en tant que personne, la manière dont vous les accompagnez. Et ça, cette chose-là, la manière dont vous les accompagnez et ce que vous leur proposez concrètement comme service, comme offre, etc., c'est ce que j'appelle le véhicule de la transformation. Donc votre spécialisation en tant que freelance, c'est la transformation que vous offrez à vos clients et le véhicule qui vous permet de leur offrir cette transformation-là. Et la grande différence, du coup, entre cette approche-là et l'injonction de la spécialisation qui tourne beaucoup trop sur Internet, dont on parle depuis le début de l'épisode, c'est que de se spécialiser dans le genre community manager de l'immobilier, finalement, c'est hyper statique. Vous êtes campé sur une position et vous ne bougez pas. On se limite à une niche, un secteur et une compétence. Et finalement, cette forme de spécialisation-là, c'est ce qui a détruit des tas et des tas d'entreprises. Pensez par exemple à Kodak, qui était clairement ultra spécialisé sur l'appareil photo jetable, toutes les formes de photos sauf l'appareil numérique. Et quand l'appareil numérique est arrivé, Kodak s'est dit « Non, ça va rien changer, nous on est spécialistes de ça et on risque rien ». Et finalement, aujourd'hui, Kodak a quasiment disparu, ou en tout cas, ils font plus d'appareils photo. En tout cas, ils ont vécu un énorme déficit et un renversement total de leur milieu. Ils se sont fait ce qu'on appelle disrupter. Et pour moi, choisir une spécialisation de cette forme, très statique, très ancrée, c'est courir le risque de se faire dépasser par le marché quand il change. Alors que, à l'inverse, le schéma de la transformation, comme je viens de vous le dire, il permet de constamment être en mouvement, comme l'est nécessairement votre client idéal quand il cherche à passer de ce point A, de la situation actuelle, à ce point B, qui est la situation idéale grâce à vos prestations. Parce que ce chemin de transformation qu'il démarre, il est potentiellement long. En fonction du schéma qu'on dessine, comme je le disais, ça peut être la situation idéale dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans aussi. Et quand vous prenez ça en compte, au-delà de vous positionner comme un spécialiste de son secteur à ce client que vous ciblez, vous êtes spécialisé dans le moment clé de sa vie qu'il traverse actuellement. Vous êtes spécialisé dans le moment clé de vie que traversent actuellement vos clients idéaux. Peu importe le secteur, potentiellement. Peut-être que il y a quelque chose que vivent tous les fondateurs de marques éco-responsables, que ce soit dans la mode ou dans l'alimentation ou même dans l'éco-responsabilité industrielle. Il y a peut-être un moment clé que tous ces fondateurs-là vivent après un an de leur entreprise quand ils recrutent leurs 3 premiers salariés, où ils ont tous le même problème, à la fois fonctionnel et émotionnel, et ça peut être ça votre spécialisation, d'accompagner les gens qui vivent ça et qui veulent aller dans une certaine direction. Et comme vous avez, avec le travail que je vous recommande vraiment de faire, creusé et atteint une connaissance singulière, profonde, à la fois au niveau fonctionnel et émotionnel, de son existence à cette personne, à ce client idéal, vous devez avoir la capacité de savoir exactement où il souhaite aller et donc de lui proposer à ce moment clé de sa vie de l'emmener où il souhaite aller. Et le jour où vous avez face à vous un client que vous connaissez déjà sur le bout des doigts parce que vous avez fait ce travail et que vous lui dites « Voilà ce que je comprends de ce que tu vis », que vous récapitulez ce qu'il vient de vous dire, plus d'autres informations, et qu'il se dit « Waouh, elle a tout compris, c'est incroyable, il y a des choses que j'avais même pas dites qu'elle a compris ». Si vous êtes capable de faire ça et de dire « Voilà ce que je vous propose et voilà où je souhaite qu'on aille », et que c'est sur mesure pour exactement ce que la personne a dans sa tête et vers où elle se projette. Parfois même pendant le rendez-vous, vous pouvez poser des questions pour qu'elle vous le dise noir sur blanc. Mais quand vous avez créé ça, cette compréhension fine, et que vous la renvoyez dans votre communication, dans votre manière de présenter votre travail, etc., c'est ça qui crée le aha moment magique où la personne, elle ne peut plus que choisir vous. C'est-à-dire que la spécialisation de la thématique et de la niche, elle a aucune force par rapport à ça, parce que vous, vous avez compris bien plus en profondeur que simplement choisir le secteur dans lequel la personne opère. Parce que la réalité de laquelle je suis vraiment convaincu, c'est que nous ne sommes pas tous faits, nous indépendants, pour être les experts internationaux d'un supra-segment détaillé au millimètre près. Raison pour laquelle beaucoup d'indépendants ne se reconnaissent pas dans cette approche de l'hyperspécialisation que tous ces contenus qu'on voit partout recommandent. Il y a plein de personnes qui ne se reconnaissent pas dedans parce qu'on n'est pas tous faits pour être l'expert millimétré. En revanche, nous accompagnons tous, sans exception, nos clients d'un point A à un point B, d'une situation actuelle, problématique, frustrante, à une situation idéale où tous leurs objectifs sont remplis et ils vivent tous les bénéfices d'avoir rempli tous leurs objectifs. On accompagne tous cette transformation-là pour nos clients, qu'on l'ait identifié ou non. Et c'est ce voyage-là qu'on fait avec eux qui doit devenir notre positionnement et notre spécialité. C'est de cette manière-là que nos clients sauront que l'on est fait et que ce que l'on fait, que ce qu'on a créé, est réellement sur mesure pour eux, de manière encore plus forte que si on est le premier dans une niche ou sur une ultra spécialité. Et du coup, tout bonnement et logiquement, à la suite de cette réflexion que je viens de vous partager là et de cette analyse, ma question pour vous cette semaine, elle est toute simple. En tant que freelance, quelle est la plus grande transformation que vous permettez à vos clients d'avoir? Posez-vous cette question cette semaine. Je vous invite à beaucoup écrire dessus, à beaucoup y réfléchir, parce que pour certains d'entre vous, et potentiellement pour toi qui m'écoutes, cette transformation, elle va bien au-delà du métier que tu exerces aujourd'hui, de la compétence sur laquelle tu t'étais spécialisé, par exemple, écrire des articles de plus de 3000 mots. Potentiellement, la transformation que t'apportes à tes clients, elle est bien plus grande que ça, et que tu ne fais pas honneur à ce que t'apportes vraiment en t'étant ultra spécialisé par le passé. Donc réfléchissez bien à cette question. Quelle est la plus grande transformation que vous permettez à vos clients d'avoir? Et je vais la tourner en tu pour qu'elle te rentre dans la tête et que tu la gardes cette semaine pour vraiment travailler dessus en profondeur. En tant que freelance, quelle est la plus grande transformation que tu permets à tes clients idéaux de vivre et d'avoir? Je te souhaite une super réflexion cette semaine. J'imagine que ça va être bien intéressant ce qui va en ressortir. Et de notre côté, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!